Chapitre 3.
Nous pouvons revenir ici une fois, déclara Julia. C'est généralement sûr d'utiliser deux fois la même cachette, mais pas avant un mois ou deux, bien sûr. Dès qu'elle se réveilla, son comportement changea. Elle devint alerte et professionnelle, mit ses vêtements, noua la ceinture écarlate autour de sa taille et commença à organiser les détails du voyage de retour. Elle avait manifestement un sens pratique dont Winston manquait. Et elle semblait avoir aussi une connaissance exhaustive de la campagne londonienne, située loin des innombrables randonnées communautaires. L'itinéraire qu'elle lui donna était très différent de celui de l'allée, et elle le fit partir d'une autre gare. « Ne rentrez jamais chez vous de la même manière que vous êtes sorti, » dit-elle en énonçant un principe général important. Elle partirait en premier, et Winston devait attendre une demi-heure avant de la suivre. Elle avait nommé un lieu où il pourrait se retrouver après le travail, 4 soirs plus tard. C'était une rue parmi les plus pauvres, où il y avait un marché ouvert, généralement bondé et bruyant. Elle traînait parmi les étals, en faisant semblant d'être à la recherche de lacets ou de fil à coudre. Si elle jugeait que la voie était libre, elle se moucherait à son approche. Sinon, il devait passer devant elle sans la reconnaître. Mais avec de la chance, au milieu de la foule, il serait sûr de parler pendant un quart d'heure et organiser une autre rencontre. « Et maintenant, je dois partir, » dit-elle dès qu'il eut saisi les instructions. « Je dois être rentrée à 19h30. Je dois consacrer 2 heures à la Ligue antisexe des juniors pour distribuer des prospectus ou autre chose. N'est-ce pas violent ? Donne-moi un coup de brosse, veux-tu ? J'ai des brindilles dans les cheveux. Est-ce que tu en es sûr ? Alors au revoir, mon amour. » Elle se jeta dans ses bras, l'embrassa presque violemment, et un instant plus tard, se fraya un chemin à travers les jeunes tiges et disparut dans les bois en silence. Il ne connaissait toujours pas son nom de famille, ni son adresse. Mais cela n'avait aucune importance car il était inconcevable qu'ils puissent se rencontrer sous un toit ou échanger aucune sorte de communication écrite. Il se trouve qu'ils ne sont jamais retournés à la clairière du bois. Au cours du mois de mai, ils n'ont eu qu'une seule autre occasion où ils réussirent à faire l'amour. C'était dans une autre cachette connue de Julia, le clocher d'une église en ruine dans une zone presque déserte du pays où la bombe atomique était tombée 30 ans plus tôt. C'était une bonne cachette quand on y était, mais s'y rendre était très dangereux. Pour le reste, ils ne pouvaient se rencontrer que dans la rue, dans un lieu différent chaque soir, et jamais pendant plus d'une demi-heure à la fois. Dans les rues, il était généralement possible de parler selon la mode. Tandis qu'il se laissait emporter par la foule sur les trottoirs, pas tout à fait de front et sans jamais se regarder, il poursuivait une curieuse conversation intermittente qui reprenait et s'interrompait comme le pinceau d'un phare. Soudain plongé dans le silence à l'approche d'un uniforme du parti ou la proximité d'un télécran, la conversation reprenait quelques minutes plus tard au milieu d'une phrase, puis elle s'interrompait brusquement au lieu où il était convenu de se séparer. Puis la conversation continuait, presque sans introduction, le jour suivant. Julia semblait bien habituée à ce qu'elle appelait un « parler par tranche ». Elle était aussi étonnamment douée pour parler sans bouger ses lèvres. Une fois seulement, au cours d'un mois de rencontres journalières, ils s'arrangèrent pour échanger un baiser. Ils passaient silencieusement dans une rue secondaire. Julia ne parlait jamais lorsqu'ils étaient éloignés des rues principales. Quand il se produisit un grondement assourdissant, la terre trembla, l'air s'obscurcit et Winston se retrouva couché sur le côté, meurtri et terrifié. Un missile devait être tombé tout près. Soudain, il prit conscience du visage de Julia à quelques centimètres du sien, d'un blanc mortel, blanc comme de la craie. Même ses lèvres étaient blanches. Elle était morte. Il la serra contre lui et découvrit en l'embrassant que son visage était vivant et chaud. Mais il y avait une substance poudreuse qui se mettait en travers de ses lèvres. Leurs deux visages étaient recouverts d'une épaisse couche de plâtre. Il y avait des soirs où ils arrivaient à leur rendez-vous et devaient se croiser sans aucun signe, parce qu'une patrouille venait de passer au coin de la rue, ou un hélicoptère planait au-dessus de leur tête. Même si cela avait été moins dangereux, il aurait encore été difficile de trouver le temps de se parler. La semaine de travail de Winston était de 60 heures. Celle de Julia était encore plus longue, et leurs journées libres variaient en fonction de la pression du travail et ne coïncidaient pas souvent. Julia, en tout cas, n'avait que rarement une soirée totalement libre. Elle passait un temps incroyable à écouter des conférences, à prendre part à des manifestations, à distribuer de la littérature pour la Ligue antisexe des juniors, à préparer des bannières pour la semaine de la haine, à faire des collectes pour la campagne d'économie ou à d'autres activités du même genre. « Cela payait, » dit-elle. C'était un camouflage. Si vous respectiez les petites règles, vous pourriez briser les grandes. Elle incita même Winston à occuper une autre de ses soirées en s'inscrivant à temps partiel pour un travail de munitions, pratiqué par des membres du parti zélés tous volontaires. Ainsi, un soir par semaine, Winston passa 4 heures d'ennui paralysant à visser de petits morceaux de métal qui faisaient probablement partie d'un missile, dans un atelier mal éclairé et plein de courants d'air, où le bruit des marteaux se mariait tristement à la musique des télécrans. Lorsqu'ils se sont retrouvés dans le clocher de l'église, les lacunes de leur conversation fragmentée étaient comblées. C'était un après-midi flamboyant. L'air dans la petite chambre carrée au-dessus des cloches était chaud et stagnant, et sentait très fort la fiente de pigeons. Ils se sont assis pendant des heures pour discuter sur le terrain poussiéreux, couvert de brindilles, l'un ou l'autre se levant de temps en temps pour jeter un coup d'œil à travers les meurtrières et s'assurer que personne ne venait. Julia avait 26 ans. Elle vivait dans un foyer avec 30 autres filles, toujours dans la puanteur des femmes. « Comme je déteste les femmes, » disait-elle en aparté. Et elle travaillait, comme il l'avait deviné, sur les machines à écrire des romans du département de fiction. Elle aimait son travail, qui consistait principalement dans la gestion et l'entretien d'un système électrique puissant, mais délicat. Elle n'était pas intelligente, mais elle aimait utiliser ses mains et se sentait à l'aise avec les machines. Elle pouvait décrire tout le processus de composition d'un roman, depuis les directives générales émanant du comité du plan, jusqu'à la touche finale donnée par l'équipe qui l'écrivait. Mais le produit fini ne l'intéressait pas. « Elle ne s'en est jamais beaucoup souciée, » disait-elle. « Je ne lis pas. Les livres étaient juste une marchandise qui devait être produite, comme la confiture, ou les lacets. » Elle ne se souvenait de rien avant le début des années 60. Et la seule personne qu'elle ait jamais connue qui parlait souvent de l'époque précédant la Révolution, c'était son grand-père, qui avait disparu lorsqu'elle avait 8 ans. À l'école, elle avait été capitaine de l'équipe de hockey et avait remporté le trophée de gymnastique 2 années de suite. Elle avait été chef de groupe chez les espions et secrétaire auxiliaire dans la Ligue de la jeunesse avant d'entrer dans la Ligue antisexe des juniors. Elle avait toujours eu un excellent caractère. Elle avait même, marque infaillible de bonne réputation, été choisie pour travailler au Pornosec, la sous-section du département de fiction qui produit de la pornographie bon marché, pour la diffuser auprès des prolétaires. Les gens qui y travaillaient l'appelaient « boîte à fumier », remarqua-t-elle. Elle était restée là 1 an. Elle aidait à la production, en paquets scellés, de fascicules qui avaient des titres comme « Histoires épatantes » ou « Une nuit dans une école de filles ». Des fascicules étaient achetés en cachette par les jeunes prolétaires qui avaient l'impression de faire quelque chose d'illégal. « À quoi ressemblent ces livres ?» dit Winston avec curiosité. « Oh, d'horribles bêtises. Ils sont ennuyeux, vraiment. Pense donc. Il n'y a que 6 modèles d'intrigue dont on interchange les éléments tour à tour. Naturellement, je ne travaillais qu'au kaléidoscope. Je n'ai jamais fait partie de l'escouade de ceux qui écrivent. Je ne suis pas littéraire, chérie. Pas même assez pour cela. » Il apprit avec étonnement que tous les ouvriers du Pornosec à l'exception des chefs de service, étaient des filles. La théorie était que les hommes dont les instincts sexuels étaient moins contrôlables que ceux des femmes étaient plus en danger d'être corrompus par la saleté qu'ils manipulaient. « Ils n'aiment pas y voir des femmes mariées, » dit-elle. « Les filles sont toujours censées être si pures. » En voici une qui ne l'est pas, en tout cas. Elle a eu sa première histoire d'amour à l'âge de 16 ans, avec un membre du parti de 60 ans qui s'est suicidé par la suite pour éviter l'arrestation. C'était une veine. Autrement, ils auraient appris mon nom quand ils se seraient confessés, ajouta-t-elle. Depuis lors, il y en a eu plusieurs autres. La vie telle qu'elle la voyait était assez simple. Vous vouliez passer un bon moment. Il, c'est-à-dire le parti, voulait vous empêcher de la voir. Vous deviez enfreindre les règles du mieux que vous pouviez. Elle semblait trouver tout aussi naturel qu'eux voulussent dérober aux gens leur plaisir et que les gens voulussent éviter d'être pris. Elle détestait le parti et exprimait sa haine par les mots les plus crus. Mais elle n'a fait aucune critique générale à ce sujet, sauf lorsque cela touchait à sa propre vie. Elle n'avait aucun intérêt pour la doctrine du parti. Il remarqua qu'elle n'avait jamais utilisé des mots novlangues, sauf ceux qui étaient passés dans l'utilisation quotidienne. Elle n'avait jamais entendu parler de la fraternité et refusa de croire en son existence. Tout type de révolte organisée contre le parti lui paraissait stupide car ça ne pouvait que se solder par un échec. L'astuce était d'enfreindre les règles et rester en vie tout de même. Winston se demanda vaguement combien il pouvait y en avoir comme elle dans la jeune génération, qui avait grandi dans le monde de la Révolution, qui ne connaissait rien d'autre et acceptait le parti comme quelque chose d'inaltérable, comme le ciel. Il ne se rébellait pas contre son autorité, mais en l'esquivant simplement, comme un lapin esquive un chien. Ils n'ont pas discuté de la possibilité de se marier. C'était une hypothèse trop vague pour qu'on prît la peine d'y réfléchir. Aucun comité imaginable ne validerait un tel mariage, même si Catherine, la femme de Winston, avait pu d'une manière ou d'une autre se libérer. C'était sans espoir, même en rêve. « Comment était-elle, votre femme ?» dit Julia. « Elle était... « Connais-tu le mot « bien-pensant » dans le jargon novlangue ? Ce qui signifie naturellement « orthodoxe », incapable d'une mauvaise pensée. « Non, je ne connaissais pas le mot, mais je connais le genre de personne, bien sûr. » Il commença à lui raconter l'histoire de sa vie de couple, mais curieusement, elle semblait déjà connaître les éléments essentiels. Elle lui décrivit, presque comme si elle l'avait vu ou senti, le raidissement du corps de Catherine dès qu'il la touchait. La façon dont elle semblait le repousser de toutes ses forces, même quand ses bras étaient étroitement serrés autour de lui. Avec Julia, il ne sentait aucune difficulté à parler de ces choses. Catherine, de toute façon, avait depuis longtemps cessé d'être un souvenir pénible. Elle était simplement devenue un souvenir de mauvais goût. « J'aurais pu la supporter s'il n'y avait eu qu'une seule chose, » dit-il. Il lui parla de la petite cérémonie frigide que Catherine l'avait obligée à suivre le même soir toutes les semaines. Elle détestait ça, mais rien ne l'empêchait de le faire. Elle avait l'habitude de l'appeler « Tu ne devineras jamais. » « Notre devoir envers le parti ?» dit Julia sans tarder. « Comment le sais-tu ? » « J'ai été à l'école, moi aussi, mon chéri. Des discussions sur le sexe une fois par mois pendant plus de 6 ans. » Et dans le mouvement de la jeunesse, il la rabâche pendant des années. J'ose dire que cela fonctionne dans de nombreux cas. Mais bien sûr, on ne peut jamais le dire. Les gens sont tellement hypocrites. Elle commença à s'étendre sur le sujet. Avec Julia, tout revenait à sa propre sexualité. Dès que l'on y touchait d'une façon quelconque, elle était capable d'une grande acuité de jugement. Contrairement à Winston, elle avait saisi le sens intérieur du puritanisme sexuel du parti. Ce n'était pas seulement parce que l'instinct sexuel se créait un monde à lui hors du contrôle du parti qu'il devait, si possible, être détruit. Ce qui était plus important, c'est que la privation sexuelle entraînait l'hystérie, laquelle était désirable, car on pouvait la transformer en fièvre guerrière et en dévotion pour les dirigeants. Julia expliquait ainsi sa pensée. Quand on fait l'amour, on consomme de l'énergie, et après on se sent heureux et on ne se soucie de rien. Ils ne peuvent pas supporter que tu te sentes comme ça. Ils veulent que tu débordes d'énergie en permanence. Toute cette marche, et les acclamations, et les drapeaux, sont tout simplement du sexe qui a tourné au vinaigre. Si tu es heureux intérieurement, pourquoi voudrais-tu t'exciter sur Big Brother et les plans triennaux et les 2 minutes de la haine et tout le reste de leur fichue pourriture ? C'était bien vrai, pensait-il. Il y avait un lien direct et intime entre la chasteté et l'orthodoxie politique. Sinon, comment aurait-on pu maintenir au degré voulu, chez les membres du parti, la haine et la crédulité folle dont le parti avait besoin, si l'on emmagasinait quelque puissant instinct et ne l'employait comme force motrice ? L'impulsion sexuelle était dangereuse pour le parti, et le parti l'avait détournée. Ils avaient joué un tour similaire avec l'instinct paternel. La famille ne pouvait pas être abolie, et en effet, les gens ont été encouragés à aimer leurs enfants comme autrefois. Les enfants, en revanche, étaient systématiquement montés contre leurs parents et on les incitait à les espionner et à signaler leurs écarts. La famille était devenue en fait une extension de la police de la pensée. Il s'agissait d'un dispositif permettant d'entourer tout le monde, nuit et jour, par des informateurs qui les connaissaient intimement. Brusquement, son esprit est revenu à Catherine. Catherine l'aurait incontestablement dénoncé à la police de la pensée si elle n'avait pas été trop stupide pour détecter l'absence d'orthodoxie dans ses opinions. Mais ce n'est pas cette pensée qui avait ramené Catherine à son esprit. C'était la chaleur étouffante de l'après-midi qui faisait transpirer son front. Il commença à raconter à Julia quelque chose qui s'était passé, ou plutôt qui n'avait pas eu lieu, par un autre après-midi d'été étouffant il y a 11 ans. C'était 3 ou 4 mois après leur mariage. Ils s'étaient égarés lors d'une randonnée communautaire quelque part dans le Kent. Ils n'avaient été distancés par les autres que pendant quelques minutes. Ils tournèrent où il ne fallait pas et se trouvèrent arrêtés net par le bord d'une vieille carrière de craie. C'était une pente à pic de 10 ou 20 mètres qui se terminait à la base par des rochers. Il n'y avait personne à qui ils auraient pu demander leur chemin. Dès qu'elle a réalisé qu'ils étaient perdus, Catherine est devenue très inquiète. Être loin de la foule bruyante des randonneurs, même pour un instant, lui donna le sentiment de mal agir. Elle voulait revenir rapidement en arrière et se mettre à chercher dans une autre direction. Mais Winston, à ce moment, remarqua quelques touffes de lysimac qui poussaient au-dessous d'eux, dans les infractuosités de la falaise. Il y avait une touffe de 2 couleurs, rouge brique et bleu, qui poussait apparemment sur la même racine. Il n'avait jamais rien vu de ce genre. Il appela Catherine et lui dit de venir voir la touffe. « Regarde, Catherine, regarde ces fleurs, cette touffe en bas, près du fond. Tu vois, elles sont de 2 couleurs différentes. » Elle s'était retournée pour partir, mais elle revint un instant fébrilement. Elle s'est même penchée sur la falaise pour voir où il pointait. Il se tenait un peu derrière elle et il mit sa main sur sa taille pour la stabiliser. À ce moment, il s'est soudain rendu compte à quel point ils étaient seuls. Il n'y avait aucune créature humaine, nulle part, pas une feuille qui remuait, pas même un oiseau qui se réveillait. Dans un endroit comme ici, le risque qu'il y ait un micro caché était très mince. Et même s'il y avait un micro, il ne captait que des bruissements. C'était l'heure la plus chaude de l'après-midi. Le soleil flamboyait, la sueur lui chatouillait le visage. « Pourquoi tu ne l'as pas poussé ?» dit Julia. « Je l'aurais fait. » « Oui, ma chérie, tu l'aurais fait. Je l'aurais fait si j'avais été la même personne à l'époque que celle que je suis aujourd'hui. Et peut-être que je le ferais. Je n'en suis pas certain.
Regrettes-tu de ne pas l'avoir fait ?
Oui, globalement, je suis désolé de ne pas l'avoir fait.
Ils étaient assis côte à côte sur le sol poussiéreux. Il la rapprocha de lui. Sa tête reposait sur son épaule. Elle était très jeune, pensait-il. Elle attendait toujours quelque chose de la vie. Elle n'a pas compris que pousser une personne gênante d'une falaise ne résout rien. En fait, cela n'aurait fait aucune différence, a-t-il déclaré. Alors pourquoi regrettes-tu de ne pas l'avoir fait ? Parce que je préfère un positif à un négatif. Dans ce jeu que nous jouons, nous ne pouvons pas gagner. Certains genres d'échecs sont meilleurs que d'autres, c'est tout. Il sentit l'épaule de Julia qui s'agitait en signe de dénégation. Elle le contredisait toujours quand il disait quelque chose de ce genre. Elle n'acceptait pas que ce fût une loi de la nature que l'individu soit toujours vaincu. D'une certaine manière, elle réalisa qu'elle était condamnée, que tôt ou tard, la police de la pensée l'attraperait et la tuerait. Mais une autre partie de son cerveau croyait qu'il était possible de construire un monde secret dans lequel on pouvait vivre comme on le voulait. Tout ce qu'il fallait, c'était de la chance, de la ruse et de l'audace. Elle ne comprenait pas que le bonheur n'existât pas, que la seule victoire se situe dans un futur lointain, bien après sa mort, qu'à partir du moment où l'on a déclaré la guerre au parti, il valait mieux se considérer comme un cadavre. « Nous sommes des morts », a-t-il dit. « Nous ne sommes pas encore morts », dit Julia de manière prosaïque. « Pas physiquement. 6 mois, 1 an, 5 ans, c'est concevable. J'ai peur de la mort. Tu es jeune, donc probablement tu en as plus peur que moi. Il est évident que nous allons la repousser aussi longtemps que possible. Mais cela fait très peu de différence. » Alors, tant que les êtres humains restent humains, la mort et la vie sont une même chose.
Oh, des conneries.
Avec qui préfères-tu coucher, moi ou un squelette? Tu n'aimes pas être en vie? N'aimes-tu pas ressentir? C'est moi, c'est ma main, c'est ma jambe. Je suis réelle, je suis solide, je suis vivante. Tu n'aimes pas ça? Elle se tourna et pressa sa poitrine contre lui. Il pouvait sentir ses seins, mûrs mais fermes, à travers sa salopette. Son corps semblait déverser une partie de sa jeunesse et de sa vigueur dans le sien. « Oui, j'aime ça, » dit-il. « Alors arrête de parler de la mort. Et maintenant, écoute, mon chéri. Nous devons nous arranger pour que notre prochain rendez-vous ait lieu à la clairière du bois. » Il y a suffisamment longtemps que nous n'y sommes pas retournés. Mais cette fois, tu devras y arriver par un autre chemin. J'ai tout prévu. Tu prendras le train. Mais regarde, je vais te le dessiner. Et de manière pratique, elle rassembla un petit carré de poussière. Et avec une brindille provenant d'un nid de pigeon, commença à dessiner une carte sur le sol.